dans la louange, dans l'intercession, dans la prière, dans l'écoute des témoignages des uns et des autres. Seigneur, continue à ouvrir notre cœur, Seigneur, à écouter ta parole, Seigneur, à en prendre soin, à être transformé par elle, Seigneur. Bénis-nous au travers de ta parole. Amen. Amen. Alors, je vous propose de partager ce matin quelque chose qui me tient à cœur depuis quelques semaines. Et c'est au sujet de l'accueil que nous avons en Jésus-Christ d'abord, et puis de l'accueil que nous pouvons avoir les uns vis-à-vis des autres. Donc, vous parlez de l'accueil. Et je vous propose de lire dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15, les versets 1 à 8, 1 à 7. Vous allez voir affiché. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous fasse ce qui plaît à son prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification, car Christ n'a pas fait ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. On a parlé de gloire ce matin. Et l'accueil fait partie de la gloire de Dieu qui se manifeste dans une église. Alors, pour situer le contexte, parce que l'Épître aux Romains, c'est une épître un peu vaste, 16 chapitres, qui est très doctrinale, etc. Nous sommes ici dans la partie exhortative de l'Épître. Paul exhorte les croyants à avoir une même unité de pensée, à être d'accord ensemble, et ceci afin de glorifier le Seigneur. Alors, est-ce que Paul exhorte les croyants à Rome à cause de circonstances particulières ou écrit-il de manière préventive face à un problème qu'il pressent dans l'Église ? Alors, je ne saurais dire, parce que nous sommes ici à une époque charnière de l'histoire de l'Église. Des croyants juifs et des croyants non-juifs se cohabitent ensemble, forme l'Église de Jésus-Christ. Le nombre de croyants d'origine païenne, donc de non-juifs, augmente de plus en plus. Et par leur nombre, mathématiquement, ils vont reléguer les croyants d'origine juive un petit peu à la périphérie. Alors s'ajoute à ce problème d'ordre quantitatif, des problèmes d'ordre culturel, comme le problème de la nourriture. On a déjà parlé de cela lorsqu'on a étudié l'Épître aux Corinthiens, donc je ne vais pas en reparler et pas rentrer en détail dans cela. Paul parle de forts et de faibles. Nous les forts, nous qui sommes forts, il s'inclut dans ceux qui sont forts. Qui sont-ils ? Le faible, il en parle au chapitre 14, donc dans le chapitre précédent. Il dit que le faible, c'est celui qui ne mange que des légumes. Bon. Le fort est capable de manger de tout. Daniel a fait un choix dans sa vie, le prophète Daniel, il a mangé que des légumes. Mais c'est lui qui était très fort par rapport aux autres. Hein ? Alors, celui qui mange telle nourriture, qui ne mange pas telle nourriture, le font par acquis de conscience. L'apôtre Paul dit que chacun veut honorer Dieu par sa façon de manger. Et l'apôtre Paul dit, il ne faut pas discuter de ces opinions-là. Il ne faut pas qu'ils soient des objets de discorde au sein de l'Église de Jésus-Christ. Alors, que le croyant juif ne mange que des légumes ou mange des choses parce qu'il a peur que de manger quelque chose qui serait interdit, ça le regarde. Que le croyant d'origine non-juif, d'origine païenne, peut manger de tout, ça le regarde. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent chez eux. Mais lorsqu'ils sont ensemble, que ce ne soit pas un objet de discorde. Que ce ne soit pas un objet de discorde. Alors c'est là que l'apôtre Paul intervient, parce que la communauté de Jésus-Christ doit se rassembler. Et il va dire, il va donner donc le conseil aux forts, ceux qui croient être capables de manger de tout. Que doit faire le fort? Le fort doit accepter la faiblesse du faible et se mettre à son service et à son niveau, car le principe qui régit les relations dans l'Église, c'est agir en vue du maintien de la paix et de la construction d'autrui. Comme va dire le texte, l'apôtre Paul dit, ne faites pas de la nourriture une pierre d'achoppement pour le frère pour qui Jésus-Christ est mort. Ne faites pas de la nourriture un problème qui amène de la discorde. Alors peut-être une image plus facile à comprendre à nous, qui nous sommes un petit peu quand même en décalage par rapport à ces situations-là. Vous invitez chez vous quelqu'un qui a été addict à l'alcool, par exemple. Vous-même, vous pouvez boire du vin avec modération quand même. Vous n'êtes pas addict, mais par égard à la personne qui a eu ce problème d'addiction, eh bien, vous vous abstenez d'ouvrir une bonne bouteille à ce moment-là. Hein ? Et donc, je dirais, ce n'est pas au nom de l'Évangile que l'on fait ça, simplement par respect. Mais ça peut nous aider à comprendre les relations qu'il pouvait avoir entre les forts et les faibles. Le but, c'est qu'ensemble, croyants juifs et non-juifs puissent continuer à glorifier le Seigneur par leur unité et leur accord. Alors voici le contexte rapidement de ce verset que je voudrais plutôt m'attarder, sur lequel m'attarder. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Nous ne sommes plus aujourd'hui dans la même situation qu'à l'église de Rome. Les circonstances changent, les motifs changent, mais le danger du rejet, de la rejection les uns par les autres peut être toujours d'actualité. Et je crois que l'exhortation qui est au centre de ces versets, c'est quelque chose de très précieux pour nous et c'est quelque chose qui est d'actualité. Alors, dans son exhortation d'accueil mutuel, accueillez-vous les uns les autres. Ce n'est pas quelque chose qui est adressé à certains pour accueillir les autres. C'est une exhortation qui s'adresse les uns et les autres. S'accueillir mutuellement. D'accord ? Voilà. Donc, dans cette exhortation d'accueil mutuel, Dieu nous donne la manière de réaliser son injonction ainsi que le but de cet ordre. C'est ce que nous allons nous attarder. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de ce verset ? On peut passer l'autre diapo. C'est que Christ nous a accueillis. Christ vous a accueillis. Christ m'a accueilli. Paul ne s'appuie pas sur des motifs humanistes pour tendre les bras les uns aux autres. Il ne dit pas « accueillez-vous les uns les autres parce que vous avez le même sang qui coule dans vos veines » ou « accueillez-vous les uns les autres parce qu'il n'y a qu'une seule humanité et que nous sommes tous frères en humanité ». Il ne donne pas ces motifs-là pour nous accueillir les uns les autres. Il nous dit, et il s'appuie sur le principe évangélique de la grâce. J'aime le principe évangélique de la grâce. La grâce est au centre de l'Évangile et la grâce est au centre de la vie de l'Église. La grâce est première, la grâce débute par Jésus-Christ. C'est elle qui nous a amenés à la vie, c'est la grâce qui nous accompagne tout le long de notre vie. C'est le principe évangélique de la grâce. Alors, quel est ce principe? Alors, j'ai cité un verset, vous allez comprendre. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est cela le principe évangélique de la grâce. L'évangile commence toujours par Jésus-Christ, par l'œuvre de Jésus-Christ. La grâce est au démarrage de la vie chrétienne. Nous acceptons la foi, nous sommes sauvés par grâce, mais la grâce nous accompagne tout le long de notre vie, n'est-ce pas ? Le principe évangélique de la grâce est ce principe qui nous fait vivre et qui fait de l'évangile quelque chose de si particulier. Alors écoutez bien quelques versets et quelques exhortations des épîtres de l'apôtre Paul et de Jean aussi. Nous aimons car il nous a aimés le premier. Nous aimons car il nous a aimés le premier. D'accord ? Il ne faut pas dissocier, faire une coupure. Nous nous aimons les autres car il nous a aimés le premier. Nous pardonnons car nous avons été pardonnés. On ne peut pas dissocier. D'accord ? Nous donnons car il nous a tout donné. Ok ? Nous accueillons parce qu'il nous a accueillis. La source du pardon, la source du don, la source de l'amour, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Je pourrais tomber dans le moralisme en disant « Il faut, frères et sœurs, que vous vous aimiez les uns les autres. » Point. Je serai moraliste, mais je ne serai pas évangélique. Parce que je coupe les racines et la force de l'amour. Vous voyez ? Pour les apôtres, l'œuvre de Jésus-Christ, c'est comme une racine d'une plante. Et lorsque une plante est coupée de ses racines, cette plante va avoir l'apparence de la vie pendant quelques jours, mais au bout d'un moment, l'état extérieur de la plante va être en adéquation avec l'état des racines, n'est-ce pas ? Plus de force, plus de vie. Et puis la tête, elle tombe à l'extérieur, hein, et puis elle est fanée. Alors oui, nous avons été accueillis les uns et les autres par Jésus-Christ, qui s'est fait serviteur de tous. Comment nous a-t-il accueillis ? Comment est-ce qu'il m'a accueilli ? Comment est-ce qu'il vous a accueilli ? C'est lui qui a fait le pas vers vous. C'est lui qui est venu vous chercher. C'est lui, en tout cas, qui est venu me chercher, n'est-ce pas ? Hein ? C'est lui qui s'est avancé vers nous en premier. Il nous a aimés le premier, il a tendu les bras vers nous, il nous a appelés alors que nous ne le cherchions même pas, comme Paul le dit plutôt dans son église, dans son épître. Il n'y a pas un juste, même pas un juste, personne qui recherche Dieu, personne n'est intelligent, personne ne recherche Dieu. Est-ce que ça correspond à ce que vous étiez ? Oui ? Non ? Toi tu cherchais Dieu ? Notre état de péché faisait en sorte que nous étions si éloignés de Dieu, que ça devait être à Dieu de venir, à notre Seigneur de venir et de faire le pas pour nous sortir de là. Nous étions pécheurs, privés de la gloire de Dieu, méritant sa juste colère, mais Jésus-Christ nous a accueillis gratuitement, il nous a lavés, justifiés par sa grâce, sans aucune œuvre de notre part. C'est ça l'évangile. On n'a pas besoin de rajouter. Pas rajouter de la morale à l'évangile. Pas besoin de rajouter tu dois et tu dois pas. Souvent les jeunes me posent la question, est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on ne doit pas ? Est-ce qu'on doit donner la dîme ? Est-ce qu'on ne doit pas donner la dîme ? On est sous la grâce. Est-ce qu'on doit, est-ce qu'on ne doit pas ? Est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas ? Plus ta relation avec le Seigneur est proche, plus tu sais ce que le Seigneur attend de toi. Plus tu comprends que c'est la grâce qui te fait vivre, plus tu sais que ce qu'il faut faire ou pas faire pour honorer le Seigneur. Alors si quelqu'un me dit, est-ce que je dois donner ma dîme ? Qu'est-ce que je dois lui répondre ? C'est dur hein, pour un pasteur, hein, pour un responsable. J'aimerais que tout le monde donne sa dîme, hein, mais je ne peux pas dire tu dois donner ta dîme. Je ne peux pas dire. J'outrepasserai, je dirais, l'évangile. Parce que l'évangile, elle ne dit pas tu dois ou tu ne dois pas. Regarde ce que Jésus a fait pour toi. Voilà, ça c'est l'évangile. Après, à toi de vivre de cette source. À toi de vivre de cette source et porter les fruits relativement à cette source. Petit message, on est bientôt en période de vacances. Tu dois pas donner ta dîme? À vous de juger. Mais sachez que l'Église a des besoins. Nous n'avons rien fait pour être accueillis par Jésus-Christ. Il ne nous a pas dit, lorsque nous nous sommes approchés de lui, lorsqu'il s'est approché de nous, va et quand tu seras un peu plus propre, assez propre, je t'accueillerai. Peut-être. Quand il s'est approché de moi, j'ai senti toute ma misère et alors que j'étais défaillant et sans force, sans alibi, sans excuse, il a enlevé mes vêtements sales, il m'a revêtu de sa robe de justice, cette robe qu'il a acquise pour moi, par le sacrifice le plus élevé qui soit, sa mort sur la croix. Tout à l'heure, on a chanté, magnifique chant, dans le lieu saint, j'entre par le voile déchiré. Quand je m'avance vers lui, je tremble un peu devant sa face. Mais sa grâce m'a accueilli. Je tremble un peu devant sa face, mais sa grâce m'a accueilli. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Il ne nous a pas dit, quand tu seras parfait, reviens, et là, je t'accueillerai. Magnifique passage dans l'évangile de Jean, chapitre 6 et verset 37. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Waouh ! Quand j'écrivais sur ma feuille, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, j'ai pensé, alors je ne sais pas si ça vient du Seigneur ou pas, mais il me semble, j'ai eu un sentiment très fort de compassion et de prière et d'intercession pour ceux qui, peut-être parmi nous, souffrent de ce qu'on appelle le syndrome de rejet. Ils pensent qu'ils ne sont pas aimés, pas acceptés, pas remarqués. Ils essaient peut-être de faire des efforts pour se faire remarquer, mais c'est fatigant de faire des efforts pour se faire remarquer. Ils se sentent seuls, même au milieu des leurs. Ils ont parfois de l'amertume et même parfois un peu de haine. Ils se sentent mis à part, ostracisés, jamais écoutés, dévalorisés. Et pourtant, ils en font des efforts pour se mettre en avant afin de compenser ce sentiment si effrayant. Parfois, ils tombent dans le perfectionnisme, parfois dans le mensonge qui se veut intéressant, parfois dans l'exubérance, parce que tout au fond d'eux, il y a quelque chose qui crie « Intéressez-vous à moi, intéressez-vous à moi ». Et c'est comme si le Seigneur me disait, alors que je préparais mon message, parle aux personnes qui vivent et qui ressentent ce genre de choses. Parle et dis-leur de ma part. Je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mets pas dehors. Quand tu viendras vers moi, je ne te tournerai pas le dos. Quand tu viendras vers moi, je ne ferai pas en sorte de ne pas te remarquer. Tu es mon enfant. Viens à moi et je t'accueillerai. Je ne te rejetterai pas. Alors, si vous me permettez, au milieu de ce message, je voudrais simplement vous demander de prier, de fermer les yeux. Et je voudrais que les personnes qui vivent ce sentiment de rejet, simplement, eh bien de s'approcher de Jésus, vraiment, de se lancer dans les bras de Jésus, tout simplement. Alors Seigneur Jésus, je te prie pour ces personnes. Moi, je les connais pas, mais toi, tu connais ces personnes-là qui vivent avec ce sentiment effrayant de ne pas se sentir aimé, de se sentir rejeté. Vraiment, je te prie pour eux, Seigneur. Et Seigneur, tu t'adresses à eux et tu veux les accueillir. Tu tends tes bras vers eux et tu leur dis, viens, viens, viens à moi. Parce que moi, je t'accueille. Parce que moi, je ne te rejetterai pas. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, que à cet instant, ton esprit, Seigneur, vienne, touche leur cœur, touche leur épaule, manifeste ta présence, Seigneur Jésus. Seigneur, fais-le par ton esprit. Amen. Il y avait un chant ancien, c'est dommage qu'on le chante beaucoup, beaucoup moins, mais je l'adore, je l'aime, je sais que moi ça a été mon enfance et chaque fois que je l'entendais, ça a été quelque chose qui me touchait énormément. Et vous connaissez ce chant, hein, c'est « Tel que je suis, sans rien à moi, je viens, je viens, je viens ». Alors je lance un appel à l'équipe de louanges. Reprenez ce chant de temps à autre. On passe à la seconde diapo, la troisième diapo. Comme Christ, accueillez-vous comme Christ vous a accueilli. Accueillir autrui, c'est le fruit de mon vécu avec Jésus. C'est lui qui est la source de notre accueil. Et si Jésus ne fait pas dans l'humanisme, il ne fait pas non plus dans le moralisme, je l'ai déjà dit. Il ne dit pas, vous devriez vous accueillir, parce que c'est bien de s'accueillir. Il ne dit pas ça. Il dit, comme Christ, accueillez-vous. Comme Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ est présenté comme un modèle à imiter, un modèle à suivre, comme Christ. Mais c'est pas... J'avais fait un message il y a 2 ans ou 3 ans, je ne me rappelle plus, sur le fait que nous étions des imitateurs de Christ et des imitateurs de Dieu. Hein. Et il y a une très grande différence entre imiter et singer. Hein, et nous ne sommes pas appelés à singer Dieu. Hein. Nous sommes appelés à imiter. Et alors, le test qui avait servi de base à ma prédication, c'était imiter Dieu. Alors attendez que je me rappelle. comme des enfants bien-aimés. C'est comme ça que nous devons imiter Dieu, parce que nous sommes ses enfants. Le singe peut faire des très belles imitation de l'homme. Mais montrez-lui une banane, il va perdre tous ses moyens et puis il va grimacer plutôt que imiter. Chasser le naturel, il revient à un galop. Imiter Dieu, c'est dans ma relation puiser en lui la force de l'imitation. Alors Luther, il dit cette citation, peut-être que tu peux la faire passer. Ce n'est pas l'imitation qui a fait les fils, mais la filiation qui a fait les imitateurs. Voilà. C'est parce que nous sommes fils que nous voulons imiter notre Père. C'est parce que nous sommes fils que nous voulons lui ressembler. Et ça, c'est tout le travail du Saint-Esprit en nous qui fait ce travail de ressemblance à Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas un commandement moral. C'est le programme de vie de l'enfant de Dieu qui mature, qui germe, qui s'accroît, qui progresse dans sa vie intérieure par la communion à Jésus-Christ. Un bon chrétien, bien câblé, bien branché, bien enraciné, bien planté en Jésus-Christ, va développer, normalement, par le Saint-Esprit, une capacité d'accueil. Parce qu'il va ressembler à Jésus-Christ. Accueillir maintenant. Accueillir, j'ai été surpris de ce qu'il y a beaucoup de mots qui font partie des mêmes racines que accueillir. Vous en connaissez, cueillir, se recueillir. Recueil. Lorsque je cueille une fleur, je cueille pour la mettre dans un bouquet. J'assemble un bouquet. Lorsque je me recueille, je rassemble mes pensées. Lorsque je lis un recueil, je lis un livre qui compile plusieurs textes. Dans l'idée d'accueillir, il y a l'idée de rassembler. Rassembler. Lorsque j'accueille quelqu'un au nom de Jésus-Christ, je lui demande de se joindre à moi. Lorsque j'accueille quelqu'un au nom de Jésus-Christ, je lui demande, viens, on va faire un bout de chemin ensemble. Lorsque j'accueille quelqu'un au nom de Jésus-Christ, je lui dis, nous allons vivre quelque chose ensemble. Accueillir, ce n'est pas simplement dire bonjour. Accueillir, c'est faire une démarche vers l'autre en vue de rassembler les personnes. Donc, c'est ce qui doit nous motiver, frères et sœurs, dans notre relation avec les personnes que nous ne connaissons pas encore. La semaine dernière, nous avons vécu une super journée, n'est-ce pas ? Des baptêmes le matin, des témoignages extraordinaires, des grillades parfaites, cuites à pointe, 450 chipots cuites au feu de bois, pile poil, merci Laurent, merci Franck et tous ceux qui ont donné, les tables qui ont été super bien mises, merci les jeunes qui nous ont aidés. Vraiment, tout ça, on a vécu aussi un temps formidable, je veux dire, de vide-grenier. On a raconté quelques petits sous pour l'espace social et fraternel. Ça a été vraiment une très belle journée. Mais je suis allé manger à côté de quelqu'un, ou plutôt quelqu'un m'a interpellé. On va dire, viens rencontrer ce couple. Nous avons une culture d'accueil dans notre assemblée, n'est-ce pas ? Beaucoup de gens témoignent de ce qu'ils se sentent accueillis lorsqu'ils viennent. Ces personnes m'ont dit, ce couple m'a dit, je ne me suis pas senti accueilli parmi vous. Ça fait 4 fois que je viens au milieu de vous et personne ne s'est avancé vers moi, vers nous, pour nous souhaiter simplement, ne serait-ce qui êtes-vous, etc. Alors j'ai été confus. J'ai même eu honte un petit peu. Voilà. Et je m'en suis excusé auprès de ce couple. Et c'est comme si le Seigneur me disait, Norbert, il y a des acquis dans cette assemblée. Et c'est vrai que notre culture d'accueil est forte. Mais peut-être par ce moyen-là, le Seigneur nous dit, ne vous endormez pas. Ne vous endormez pas. Ouvrez encore plus grand vos mains. Alors c'est vrai que se sentir accueillir ne pas se sentir accueilli, c'est subjectif, selon les caractères des uns et des autres. Mais je crois qu'il y a eu comme un appel de la part du Seigneur pour nous dire, et nous lancer un défi, apprenez encore à mieux accueillir, apprenez encore à mieux ouvrir vos cœurs pour les personnes qui sont là pour la première fois. Tout à l'heure, nous allons prendre le pain et le vin. Et c'est vrai que parfois, on est un petit peu gêné parce qu'on est à côté de personnes que l'on ne connaît pas à droite et à gauche. Et ce qui est formidable, c'est qu'on regarde toujours dans la même direction, l'estrade. Mais peut-être il faudrait que nous puissions apprendre à regarder aussi à ceux qui sont à nos côtés, à droite et à gauche, en disant, je ne te connais pas, je me présente, je m'appelle Norbert. C'est la première fois que tu viens, il va te dire oui ou non. Qui es-tu ? Voilà, et je trouve que déjà là, au moment de la Sainte-Cène, nous pouvons développer cette culture d'accueil. Cette culture d'accueil. Alors ça va, vous connaissez plus ou moins ? Bonjour Daniel, fait plaisir de te voir. Ouais. Bonjour les amis, fait plaisir de vous voir. Amen. Je vous appelle maintenant à revenir vers moi. J'ai lâché la bride. Frères et sœurs, vous êtes merveilleux, merveilleux, incroyablement merveilleux. Je suis heureux de faire partie de votre assemblée. Alors, Dieu nous lance un défi, grandir dans l'accueil, pas simplement aujourd'hui, pour l'année à venir, grandir dans l'accueil. Alors, grandir dans l'accueil, ça ne veut pas simplement dire étoffer l'équipe d'accueil qui se tient le dimanche matin. Et d'ailleurs, je tiens à les remercier pour leur fidélité et leur engagement. Merci beaucoup. Voilà. Grandir dans l'accueil, c'est l'affaire de tous. Accueillez-vous mutuellement les uns les autres. Grandir dans l'accueil, c'est développer une capacité, une compétence en vue de rassembler. En vue de rassembler. Je te cueille en t'accueillant. Tu vas bien faire partie de mon bouquet. Le prolongement du cœur, c'est la main. Ça, c'est une situation de moi. Voilà. Passe. Le prolongement d'un cœur ouvert, c'est une main tendue. Hein, elle est belle, hein? Voilà. C'est la seule que je ferai. Et donc, ça veut dire aller au-devant des personnes. Ne pas se réfugier derrière ses limites. Ne pas se donner des excuses derrière lesquelles se réfugier. Je suis timide, alors je ne vais pas. C'est l'affaire de l'équipe d'accueil, ça ne me concerne pas. C'est un jeune, moi je suis vieux, donc ça ne me concerne pas. Oh, c'est un vieux et moi je suis jeune, ça ne me concerne pas. Franchir les barrières, aller au-delà des limites, c'est ça, accueillir. Hein. Faire fi des différences flagrantes, ne pas se fier à ses premières impressions. Il y a des gens qui tirent la gueule peut-être parfois. Mais peut-être ils attendent qu'on vienne leur sourire pour qu'ils puissent sourire à leur tour. Hein? Aller plus loin que les différences d'âge, de mode et de culture. Certains sont habillés d'une drôle de manière, mais le Seigneur les appelle aussi et les accueille aussi. Aller aussi loin que les personnes vous autorisent à aller. Parce qu'il y a des gens que lorsque vous accueillez, ils vont dire « Oh là là, qu'est-ce qu'il me veut ?» Alors on doit les laisser à la liberté. Ne pas s'imposer, ouvrir sa maison, pratiquer l'hospitalité, mettre à disposition ses ressources, même si à nos yeux cela nous paraît petit. Il y a Luc 9, relisez le passage de la multiplication des pains, c'est marqué que lorsque la foule vient vers Jésus, c'est marqué texto, Jésus les accueillit. Jésus les accueillit. Combien ils étaient ? 5000 personnes, grand ouvert. Jésus s'intéresse, il commence à leur parler. Ça, c'est de l'hospitalité. Les accueillis, bon, ils étaient en plein air. Facile. Et à un moment donné, les disciples, ils sont dépassés par les événements. Ils disent, nous, on ne peut pas les accueillir. Renvoie-les. Renvoie-les pour qu'ils aillent à manger. Alors, les disciples, c'est bien parce qu'ils ont conscience des besoins des uns et des autres. Mais ils ne se sentent pas capables de répondre à ces besoins. Vous voyez ? Alors, il dit à Jésus, mais renvoie-les parce que nous, on n'est pas capables. Et Jésus va leur dire, va mettre les points sur les i, donnez-leur vous-même à manger. Voilà. Alors peut-être nous ne sommes pas capables nous-mêmes, par notre personnalité, de faire accueil aux autres personnes, parce qu'ils sont peut-être trop différents de nous. Mais Jésus, lui, les accueille. Et il nous dit, toi Norbert, accueille-le aussi en mon nom. Vous aussi, Église, accueillez-les aussi en mon nom. Jésus nous lance un défi. Et vous vous rappelez comment ça se termine l'histoire. Hein? Tout le monde a été nourri. Pas un n'a été oublié. Il y a eu du rab pour tout le monde. Celui qui se sentait rejeté, qui disait peut-être il n'y a rien pour moi, mais si, si, tu as encore plein de paniers pour toi. Plein de paniers pour toi. Voilà, ça c'est le défi de notre assemblée. Je me suis laissé toucher par ce couple qui avait cette critique par rapport à notre accueil. Et je ne me suis pas dit, je vais donner des alibis, des excuses, etc. Si, j'ai commencé à dire, je suis un petit peu timide. Là, Jésus m'a repris, il m'a dit, non, c'est pas ça. Accueille-les, demande pardon, excuse-toi. Tu ne les as pas accueillis, tu ne les as pas vus. Ça fait 4 dimanches qu'ils sont là, personne n'a été les voir. Ils ont sûrement été accueillis par l'équipe de bienvenue hein, et d'accueil, mais ils attendaient encore plus. Seigneur Jésus, alors on va se lever en tant qu'Église, allez, voilà, je vous bouge parce que sinon je vais vous endormir. Seigneur Jésus, tu nous lances un défi de l'accueil. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Et ceci pour la gloire de Dieu, non pas pour faire grossir nos rangs, pas pour faire de l'esbrouf, pour la gloire de Dieu, pour la bannière gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. C'est ça qui nous motive, n'est-ce pas ? Seigneur Jésus, en tant qu'Église, Seigneur, par ton esprit, nous voulons relever le défi de l'accueil. Par ton esprit, nous voulons relever, Seigneur, d'avoir ce cœur ouvert et cette main tendue. Par ton esprit. Donne-nous, Seigneur, d'être bien branchés en toi, de bien nous percevoir comment tu nous as accueillis vraiment, pour que nous puissions vraiment accueillir les autres. Donne-nous d'être branchés sur la puissance de l'Évangile, c'est-à-dire sur ta personne, pour accueillir les autres. Seigneur, bénis chacun d'entre nous. Nous voulons nous sentir concernés par l'accueil, les uns et les autres, mutuellement. Seigneur, en tout cas, ce que nous désirons dans notre assemblée, Seigneur, c'est que ta gloire soit manifestée. Et Seigneur, par nos cœurs ouverts, par l'amour que nous avons les uns pour les autres, et pas simplement entre nous, mais envers les autres qui ne sont pas encore avec nous, Seigneur, nous voulons te demander, Seigneur Jésus, de nous faire agir, réagir par la puissance de ton esprit. Amen. 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 Soyez bénis les uns et les autres. Amen.